Écho de la bonne nouvelle. Écho de la bonne nouvelle, une émission d'évangélisation et d'édification chrétienne. J'ai caché ta parole dans mon cœur afin que je ne pèche pas contre toi. Psaume 119, verset 11. Défiguré pour un autre. Un incendie se déclare dans une maison au milieu de la nuit, dans un village en pleine campagne. Les petites flammes se transforment vite en un grand brasier. Les habitants se réveillent et sortent, affolés et pris de panique. Soudain, on entend un appel désespéré. C'est la voix d'un petit garçon resté prisonnier du feu. La mère veut se précipiter pour aller le chercher. Est-il trop tard? Tout à coup, un bras la retient et un homme se jette alors dans la flamme à sa place. Il parvient à monter à l'étage où la chambre de l'enfant n'a pas encore été touchée par les flammes. Il quitte alors sa veste et y enveloppe le petit avant de descendre et de retraverser le brasier. L'enfant est sauvé. L'homme est grièvement brûlé et ses souffrances vont être intenses et longues. Quand il est guéri, son visage est devenu méconnaissable. De profondes cicatrices témoignent pendant toute sa vie de son geste d'amour courageux. L'enfant sauvé grandit. Dans le village, on a oublié peu à peu les circonstances de l'incendie. L'homme au visage défiguré devient un monstre aux yeux des enfants. Il s'enfuit de lui quand il le voit. Parfois, dans son dos, il plaisante à son sujet. L'enfant sauvé du feu se mêle aux autres pour jouer et se moquer de cet homme au visage affreux. Mais ses parents, eux, se souviennent de l'incendie. Et un jour, quand l'enfant peut comprendre, ils lui racontent les terribles circonstances qui ont marqué pour toujours le visage de cet homme de courage et de cœur. L'enfant éclate en sanglots. Comment a-t-il pu se moquer de cet homme qui a risqué sa vie pour lui? Honteux, bouleversé, pris de remords, il court à sa recherche et se jette dans ses bras. Comme il trouve beau maintenant cet homme qui a offert sa vie en sacrifice pour le sauver. Cher auditeur, cette histoire me fait penser à la mienne, mais c'est aussi la tienne. Un jour, un homme a aussi terriblement souffert pour moi, pour toi, des souffrances impossibles à décrire. Il a été cloué sur une croix, crucifié pour que je puisse avoir la vie, pour que toi aussi tu puisses avoir la vie. Te moques-tu de celui qui a donné sa vie pour toi, comme cet enfant? C'est certainement parce que tu ne le connais pas. Celui qui a donné sa vie pour moi et pour toi, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Il est descendu sur notre terre de souffrance, de violence, de corruption, de péché pour en arracher des hommes, des femmes et les enfants de la perdition éternelle, du jugement puis de l'enfer, le lieu de feu éternel. Matthieu chapitre 18 verset 8, Marc chapitre 9 verset 44 à 48. Si tu ne te tournes pas vers lui, son jugement t'atteindra après cette vie, car il est écrit « Après la mort, le jugement » Hébreux chapitre 9, verset 27. Et ce jugement sera éternel. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Viens à lui aujourd'hui. Il t'a aimé, il t'aime encore. Il veut que tu croies qu'il est venu sur la terre pour toi, qu'il est mort pour toi. Il est ressuscité et assis maintenant à la droite de Dieu. Toute autorité lui est donnée. Il exercera cette autorité pour juger ceux qui auront refusé sa grâce, son pardon gratuit. Avant qu'il ne soit trop tard, écoute la Bible qui dit « Soyez réconciliés avec Dieu ». 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. C'est seulement par la repentance envers Dieu et la foi au Seigneur Jésus-Christ mort sur la croix que tu peux être sauvé pour l'éternité. Et puis, quand tu connaîtras Jésus comme ton Sauveur, tu le trouveras si beau, si parfait, si grand. Les évangiles racontent sa vie. C'est pourquoi, pour connaître toujours mieux ton Sauveur, tu prendras plaisir à les lire et à les relire. Alors, ton amour pour lui grandira chaque jour et ton obéissance aussi. Attention à l'alcool. En France comme en Afrique, de très nombreux accidents de la route sont occasionnés par des conducteurs qui ont trop bu des boissons alcoolisées. Combien de jeunes gens sont morts subitement pour avoir trop bu? Combien de responsables d'un accident et de la mort de personnes jeunes ou âgées? D'innombrables foyers ont été brisés par l'alcoolisme d'un des conjoints. De nombreux enfants ont de graves tares dues aux excès de leurs parents. Ces dramatiques conséquences sont autant de raisons pressantes pour écouter la mise en garde de la Bible. Le vin est moqueur, la boisson forte est tumultueuse et quiconque s'y égare n'est pas sage. Proverbes chapitre 20, verset 1. Pour échapper à la tentation de l'alcool, il ne suffit pas d'être convaincu de sa nocivité. Pour échapper à son pouvoir, qui attire aussi le chrétien, supplions le Seigneur de nous aider. Rappelons-nous que Christ a souffert l'agonie de la croix pour effacer nos péchés et le péché de l'abus de l'alcool également. Souvenons-nous que nous sommes des enfants de Dieu, du Dieu très pur, très saint et immensément amour. Refusons d'être infidèles à notre Père juste et saint. Ne sommes-nous pas ses bien-aimés enfants? Quand la tentation du péché de s'enivrer se présente, le salut est presque toujours dans la fuite immédiate loin de ceux qui commettent ce péché. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est au contraire du courage, car le chrétien est le péché. Il est écrit dans la Bible, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Aussi, appliquons-nous à nous éloigner des mauvaises compagnies, comme il est écrit, « Ne sois pas parmi les buveurs de vin, ni parmi les gourmands. » Proverbes chapitre 23, verset 20. Ne comptez pas sur votre force de caractère, ni sur vos bonnes résolutions, car au jour de la tentation, elles ne vous seront d'aucun secours. Mais comptez sur l'aide de Dieu, sur sa force. Il est puissant pour venir en aide à tous ceux qui l'invoquent avec foi dans leur détresse. Psaume 50, verset 15. Oh. la venue du Seigneur. Les chrétiens qui connaissent un peu les prophéties de la Bible savent que le jugement du monde est très proche. Tout converge vers la crise annoncée avec ces terribles jugements. Ils viendront parce que les hommes agissent contre la volonté de Dieu. Sur le plan moral, social, religieux, politique, économique. La très grande patience de Dieu a des limites et sa parole s'accomplira. Certains incrédules croient que tout va continuer comme avant et même que l'avenir sera meilleur. Il leur adviendra ce qui est écrit. De même aussi, comme il arriva au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais au jour où Lot sortit de Sodome, il plut du feu et du soufre du ciel qui les fit tous périr. Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme sera manifesté. Luc chapitre 17, versets 28 à 30. Les chrétiens ont appris que le Seigneur Jésus viendra chercher ses rachetés avant les jugements qui tomberont sur la terre habitée toute entière. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Ils seront enlevés au ciel comme Enoch avant le déluge, car il avait marché avec Dieu. Genèse chapitre 5, verset 24. Le Seigneur vient donc chercher d'un jour à l'autre les croyants. Il est écrit, « Car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange et avec la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous, les vivants qui demeurerons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17. Comment attendre chaque jour le Seigneur? La réponse est simple. C'est en vivant en communion avec lui, en veillant dans la prière, en obéissant aux commandements de Dieu, c'est-à-dire à la Bible. La vie de communion avec le Seigneur fait que nous nous séparons du mal, du monde, pour rendre témoignage à l'amour, la sainteté, la justice de Dieu. Une question. Est-ce que tu attends vraiment le Seigneur? Et es-tu prêt? Louez Dieu. Psaume 113. Le psaume 113 commence et finit par la louange à Dieu. Le psalmiste invite les serviteurs de l'Éternel à louer le nom de l'Éternel. Oui, ce sont seulement les enfants de Dieu, ceux qui le connaissent, qui peuvent réellement louer Dieu. Il continue en invitant à le louer toujours, jusque dans l'éternité. Commençons donc maintenant. Aujourd'hui, soit seul, soit en famille, soit dans l'assemblée. Puis, il rappelle la majesté de Dieu. Il est au-dessus de tout, car il est le Créateur. Louons-le avec le respect et l'humilité de la créature devant le Créateur. Mais le sujet de la louange des chrétiens, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu du ciel sur la terre pour les chercher, pour les sauver et les bénir. Ils étaient perdus et dans la misère la plus profonde, sur le fumier, nous dit le verset 7. Il est mort pour nous afin que nous ne soyons pas condamnés et en plus, pour nous donner sa vie, la vie éternelle avec lui. Oui, Dieu ne nous a pas seulement pardonné, il nous a fait asseoir avec les nobles, verset 8. Cela veut dire pour nous que Dieu nous a donné le droit d'être enfants de Dieu, aimés par Dieu le Père comme Christ est aimé. Quel merveilleux sujet de louange et d'adoration envers le Père et le Fils. Les sectes. Dans les pays d'Afrique, les sectes se développent en grand nombre. Les sectes enlèvent la liberté de leurs membres, elles obligent à penser comme elles et à adopter leur doctrine particulière. Elles réclament toujours de l'argent, elles ne soulagent pas la misère ni ne montrent à personne le chemin pour avoir la paix avec Dieu. Ne nous laissons pas séduire par les belles paroles, ni par les généreuses promesses de leurs dirigeants, ni par les chants qui entraînent, ni par le nombre des adeptes, ni par la grande apparence des chefs. Ils recherchent tous le pouvoir, le luxe et les applaudissements. Par contre, nous reconnaissons les chrétiens par leur humilité, par leur dévouement et surtout, parce qu'il parle du Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est mort à la croix, puis est ressuscité le troisième jour. Il est vivant auprès de Dieu. Les chrétiens invitent à croire en lui et à croire dans la Bible, son livre. Les chrétiens proclament la vérité de Dieu, même si elle fait parfois trembler. Ils rappellent que nous sommes condamnés devant Dieu, car coupables. Perdus? Oui. Mais en même temps, ils annoncent un grand sujet de joie. Jésus aime et sauve quiconque s'humilie, se repent, lui confesse ses péchés et croit en lui. Jésus est mort à la place des pécheurs. Il lave par son sang les péchés de quiconque croit. Il donne la paix avec Dieu et la vie éternelle. Contrairement aux sectes, la foi chrétienne parle de la réconciliation avec Dieu gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Elle met en relation directe avec lui. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'une secte, d'une religion excitante, mais de paix avec Dieu. Par sa grâce, j'ai cette paix avec Dieu. L'avez-vous? Comment lire la Bible? La Bible n'est pas un livre comme les autres, car Dieu nous parle par elle. C'est une parole vivante. Ceux qui l'ont écrite étaient poussés par l'Esprit Saint. Elle est inspirée. Elle a été conservée miraculeusement à travers les siècles. Il est nécessaire de la lire ou de l'écouter pour recevoir les pensées de Dieu. Il faut la lire avec attention, avec respect, avec humilité. Dieu lui-même, par son Saint-Esprit, révèle au lecteur son message d'amour et de vérité. Quand vous avez lu un chapitre, demandez-vous quel message Dieu vous envoie. Ce sera peut-être une pensée sur les vertus du Seigneur Jésus. Quelle joie pour le cœur! Ce sera peut-être un enseignement. Alors demandez à Dieu son aide pour le mettre en pratique aussitôt. Parfois, c'est une consolation, etc. La Bible rend très humble et courageux celui qui la lit. En même temps, elle glorifie Dieu et Jésus-Christ qui deviennent grands dans nos pensées. Ceux qui se glorifient de leur connaissance biblique ne sont pas intelligents, car tout est un don de Dieu et nous ne connaissons qu'en partie. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 9. Le psalmiste disait qu'il avait de la joie dans la lecture de la Bible plus que celui qui avait trouvé un grand butin. Psaume 119 verset 162. Lisons-la régulièrement chaque matin en priant avant et après notre lecture. C'était Écho de la Bonne Nouvelle, une émission d'évangélisation et d'édification chrétienne. Voici notre adresse, Écho de la Bonne Nouvelle, 01, boîte postale 832, Lomé, Togo. Courriel maison des traités @yahoo.fr.